Cube Radio.
Dutrisac. Des propos cohérents.
Des opinions différentes. Vous écoutez
Dutrisac.
Avec Geneviève Peterson, qui sera avec vous à 13h. Elle est là pour ça, présentement. Geneviève, bonjour.
Salut, Benoît.
Alors, c'est True Crime aujourd'hui.
Ben, c'est notre fascination pour les histoires d'enquête. On reçoit beaucoup de livres quand on travaille à la radio. Puis, tu sais, souvent, on les regarde et tout ça. Puis, ce qui attire notre attention, ça dépend de nos intérêts, tu sais. Puis là, je reçois ce livre-là, évidemment, sur mon bureau. Ça s'appelle La dépoussiéreuse de crime. Bon, évidemment, ça attire mon attention. Tu sais que j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur les tueurs en série. T'sais, j'aimais ça lire des affaires sur les profileurs du FBI et tout ça. Puis je pense que je suis pas la seule. Là. Mmh. On a tous et toutes une fascination pour ça. Mais depuis quelques années, je me questionne sur notre fascination pour ces affaires-là. Parce que cette fille-là, c'est fou. Là. Annie Richard, une ancienne intervenante qui a tout abandonné pour devenir détective privée. Elle a fait une formation au bureau de la sécurité privée parce que tu t'improvises pas détective comme ça. Il y a des gens qui font ça à temps perdu. T'sais, c'est comme un genre de passe-temps, ce qui est quand même spécial quand on y pense, là, d'être fasciné à ce point-là pour tout abandonner. Donc, elle, c'est ce qu'elle fait. C'est devenu son métier. Elle anime une émission à Canal D où, je sais pas si tu l'as vu passer, cette émission-là, là, c'est des vedettes qui viennent sur leur rue d'enfance où c'est produit un crime. Donc, c'est un peu une prémisse spéciale, tu sais. Puis, bon, c'est des enquêtes qu'on connaît déjà, là, la mort du petit Sébastien Métivier, Madame Luce aussi, là, une mère de la Rive-Sud, son fils a fait enquête sur sa mort, un malfaiteur se serait introduit pendant qu'elle dormait dans sa maison. Donc, elle nous raconte un peu tout ça dans son livre, c'est par cas, là, c'est divisé par cas. T'as des entrevues avec Claude Poirier, mais moi, c'est toujours mon bémol, puis c'est pas que j'ai un bémol envers son livre ni envers elle, mais envers ce type d'initiative-là en général, parce que, tu sais, j'écoute une balado ces temps-ci aussi sur des par Stéphane Bertrand Thomas, là, les enfants de novembre sur un meurtre qui a été non résolu à Montréal. Mais c'est toujours la question, mais tu te dis, OK, mais ça sert à quoi? T'sais, de rebrasser tout ça, d'aller voir les familles pour des crimes qui se sont produits, par exemple, je sais pas moi, en 1953. Puis là, t'écoutes ça ou tu lis ça, puis tu fais tabarouette, OK, elle va résoudre l'enquête.
Ouais.
Mais non, ça arrive jamais. Fait que je pose vraiment notre question. Puis pourquoi on aime ça à ce point-là? Parce que je suis sûre que toi, tu regardes aussi comme moi les documentaires à Netflix et tout.
On a fait un truc au Frontier là-dessus, là, sur les true crime, les podcasts.
Ted Bundy, une année sur Netflix, je pense que c'est v'là 2 ans. Il est sorti comme 4-5 affaires sur Ted Bundy en même temps. Là, puis c'était les affaires les plus écoutées.
Une fiction, puis un documentaire, puis nomme-les. Puis à un moment donné, est-ce que c'est un désaveu du travail des policiers aussi?
Ben, c'est parce que je sais pas comment les policiers ils trouvent ça quand tu cognes à leur porte puis t'es Monsieur Nobody ou Madame Nobody.
Moi j'ai parlé à la Sûreté du Québec.
Que oui.
Ça leur tape ses nerfs.
Bon, dans certains cas.
Ils disent que si ça aide, tant mieux. Mais tu sais, c'est comme les policiers qui sont formés pour ça ont pas trouvé la solution. Puis là, le citoyen va arriver. Puis en même temps, il y en a un.
Ben attends, y a, dans certains cas, le SPAL rouvre l'enquête parce que bon, il y a des cas où il y a des détails qui ont été mis de côté. Puis à un moment donné aussi, il y a des affaires un peu incongrues qui se produisent. Là, tu te dis, OK, il y a de la preuve qui s'est, entre guillemets, perdue, qui a été détruite, parce qu'on sait que la police fait le ménage de ses archives sporadiquement. À un moment donné, ils ne peuvent pas garder tout.
Non, ils gardent tout. Moi, je suis allé dans les...
Mais ils ont fait un grand écrémage à un moment donné, dans les années 70 puis 95.
Dans la Sûreté du Québec, là, il y a des boîtes là, de toutes sortes d'affaires qui remontent.
Ouais.
John Allor, qui est sa sœur, est morte en Estrie dans les années 70. 40 ans plus tard, là, il y a un podcast aussi.
Ben, c'est ça.
Qui revient là-dessus. Puis lui, c'est au Québec, là. Il parle, c'est un anglophone, il habite au Vermont. Mm. Mais ça s'est passé au Québec. Puis la Sûreté du Québec est plus capable de le voir en peinture, là.
Mais en même temps, on les comprend, ces gens-là. Quand t'as perdu quelqu'un, un membre de ta famille, puis t'as l'impression, tu sais, que le policier ou la policière ou l'équipe se présente chez vous en disant, je m'excuse, là, on continue à, le dossier est pas fermé, mais à un moment donné, quand toutes les pierres ont été retournées, il y a une limite à ce que le travail des policiers peut faire découvrir dans ces histoires-là. Fait que je me dis tout le temps, ça apporte quoi, ces histoires-là? Puis je vais lui poser la question, c'est quoi son objectif à elle? Parce que je pense qu'elle est bien consciente qu'elle réussira pas à résoudre la majorité des enquêtes sur lesquelles elle se penche. Mais les gens lisent ça, les gens aiment ça, les gens consomment ça. Les podcasts de True Crime, ce sont les podcasts les plus écoutés, toutes plateformes confondues. Mmh. On a une fascination pour ça. Puis souvent, c'est bien fait. C'est le fun à écouter, je l'avoue. Mais qu'est-ce que... Puis je me mets tout le temps dans la peau des familles qui ont perdu du monde. Tu sais, des fois, on Ça s'est passé dans les années 90. Ces gens-là sont encore en vie. Là. Comment ils se sentent, eux autres, quand on décortique tout ça? C'est, ça doit être quand même... En tout cas, je sais pas si ça apporte vraiment quelque chose.
Ça a pas mal commencé aussi avec James Ellroy, le Black Dahlia en 87.
Le Dahlia Noir, puis James Ellroy, ouais. Dont la mère a été assassinée, qui raconte qu'il s'est introduit dans des maisons pour voler des sous-vêtements. Moi, mon mémoire de maîtrise était sur un tueur sur la route, qui est un des documents les mieux faits sur la psychologie des tueurs en série.
Mais moi, je l'ai interviewé deux fois, James Ellroy.
T'es vraiment chanceux. Oui, pour vrai, là, est-ce que je peux toucher à ta chemise?
Il m'a même dédicacé un de mes livres.
Mais c'est un être... Écoute, c'est un fucké, là. Il veut rien savoir du monde moderne. Non. Il est chez lui, il écoute sa musique.
Puis il est à droite.
Puis, écoute, mais je sais pas si tu as lu American Tabloid, là, mais je veux dire, c'est du génie, là.
Mais les woke...
Oui.
devrait lire James Ellroy. Ben, il ferait des cacas nerveux aux trois pages.
Je pense qu'on devrait lire James Ellroy en général dans sa vie parce que c'est un auteur extraordinaire. Ouais. Un humain quand même.
Autre chose.
Joe est un autre dans son cas, je pense que oui.
Le roi des allitérations. Hein?
Oui, exactement.
Ellroy, là, faut le lire en
français ou
en
anglais? C'est ça, moi j'ai commencé par lire dans la collection Rivage, qui est une traduction quand même bien faite, mais après ça, American Tabloid dans la langue originale, pour la petite fille du Saguenay que je suis, là, c'était quand même un défi considérable.
On t'écoute à 13h. Merci. Salut.